VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 31 mai 2017. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
La première dame du Nigeria au chevet du président Muhammadu Buhari à Londres, relançant les inquiétudes sur la santé de son mari.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a limogé hier soir deux de ses ministres, sans autre précision.
Au Rwanda, préoccupation des Occidentaux après certaines décisions sur l'utilisation des réseaux sociaux par les candidats à la présidentielle du 4 août.
Le Pentagone a annoncé avoir testé avec succès pour la première fois l'interception d'un missile balistique intercontinental.
En Irak, une trentaine de personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans deux attentats suicides hier à Bagdad.
Au moins 9 personnes sont mortes et 90 autres ont été blessées dans la forte explosion qui a secoué tôt ce matin le quartier diplomatique de Kaboul en Afghanistan.
Ne manquez pas également notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
La première dame du Nigeria, Aïcha Buhari, est partie mardi pour Londres au chevet de son époux, qui suit actuellement un traitement médical dans la capitale britannique, alimentant un peu plus les inquiétudes sur l'état de santé du président nigérian. Tatiana Mosso.
Lundi marquait le deuxième anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Buhari. Les deux premières années de son mandat ont été ternies par ses problèmes de santé récurrents et des interrogations sur ses capacités physiques à diriger le pays. En début d'année, il a été près de 2 mois à Londres pour des raisons de santé avant de repartir à nouveau début mai. Les causes de sa maladie n'ont pas été dévoilées et son entourage est désormais totalement silencieux. Si Muhammadu Buhari démissionne de la présidence ou s'il vient à décéder, le pouvoir reviendra à son vice-président Yemi Osinbajo, comme ce fut le cas en 2010 à la mort d'Umaru Yar'Adua après des mois de silence et d'incertitude. Bien que Osinbajo occupe actuellement le poste de président par intérim, c'est lui qui s'est rendu au sommet G7 en Italie la semaine dernière. L'absence du chef de l'État crée un vide et un manque de décisions politiques majeures, alors que le Nigeria, géant de 190 millions d'habitants, traverse une grave crise économique.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a mis fin aux fonctions de deux ministres selon un décret lu sans autre précision hier soir à la Radio Nationale. Il s'agit du ministre de l'Aménagement du Territoire, Hamid Mahamad Dahalob, et de celui des Mines et de la Géologie, David Houdengar. Selon l'AFP, citant une source officielle qui a requis l'anonymat, les deux ministres seraient, dit-on, épinglés dans des malversations par l'inspection générale d'État.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est rendu hier dans la capitale du Kasaï central. C'est sa première visite dans la province depuis le début en septembre d'une vague de violences meurtrières dans le centre du pays. Cette violence a suivi la mort de Kamuina Nsapu, chef traditionnel, tué le mois précédent lors d'une opération militaire après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa.
Au Rwanda, les diplomates occidentaux en poste à Kigali ont exprimé hier leurs préoccupations concernant une mesure de la commission électorale pour contrôler les publications de campagne sur les réseaux sociaux des candidats à la présidentielle du 4 août. Eric Manirakiza.
L'ambassadrice des États-Unis a parlé de très très sérieuses limitations de la liberté d'expression. Erika Bax-Ruggers s'exprimait pendant un dialogue organisé par l'Union européenne en présence du ministre rwandais de la Justice. De son côté, Michael Ryan, ambassadeur de l'Union européenne, s'inquiète de savoir où les lignes sont tracées. Enfin, l'ambassadeur d'Allemagne, Peter Wurtz, se demande si la censure est la meilleure voie pour empêcher les discours de haine. La Commission électorale nationale a publié une directive prenant effet à partir du 14 juillet, date du début de la campagne électorale. Cette mesure exige à tous les candidats de soumettre au moins 48 heures avant les messages, photographies ou autres matériels de campagne qu'ils souhaitent publier sur les réseaux sociaux. L'opposition a également critiqué cette décision. Elle craint son utilisation pour empêcher toute voix discordante au régime du président Paul Kagame. 4 candidats ont déclaré leur intention d'affronter le président Kagame, mais doivent encore recevoir l'aval de la commission électorale.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a fait état hier de fraudes et de graves malversations découvertes dans le camp de réfugiés de Kakuma, dans le nord-est du Kenya. Claire Morin-Gibourg.
Après des allégations de fraude, de corruption, de menaces et d'intimidation dans le camp, le HCR a lancé une enquête. Dans un communiqué publié hier, l'agence onusienne a confirmé l'implication de 5 membres du personnel du camp contre lesquels une série de mesures a été prise. Dans 3 cas, il y a eu dénonciation à la police kényane et l'une des personnes a été arrêtée. 2 des 5 personnes impliquées ont démissionné et des procédures disciplinaires sont en cours contre les 3 autres. Le HCR a par ailleurs lancé un examen interne et indépendant qui a abouti à des recommandations afin d'accompagner les actions disciplinaires prises contre ceux qui ont commis les malversations. Par mesure de sécurité, les opérations de réinstallation à partir de Kakuma sont suspendues. Aucun détail n'a été donné sur les fraudes et les malversations.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 9 personnes sont mortes et 90 autres ont été blessées dans la forte explosion attribuée à un camion piégé qui a secoué tôt ce matin le quartier diplomatique de Kaboul en Afghanistan, selon un nouveau bilan du ministère afghan de la Santé. Il s'agit d'un bilan provisoire, a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère Ismaël Kawusi. Des corps et des blessés continuent d'être amenés dans les hôpitaux, a-t-il ajouté.
En Irak, une 30aine de personnes ont été tuées et une 100aine d'autres blessées dans 2 attentats suicides hier, à quelques heures d'intervalle à Bagdad. Le point avec Anastasie Tudiech.
Peu après minuit, un kamikaze a fait exploser un véhicule piégé dans le centre de Bagdad. Quelques heures plus tard, un second a fait exploser une voiture piégée près d'un important pont de la capitale irakienne. Les 2 attentats ont été revendiqués par le groupe État islamique. Ils ont eu lieu le soir, en plein Ramadan, lorsque les habitants se promènent après la rupture du jeûne pour faire le plus grand nombre de victimes. Dans le nord du pays, soldats, policiers et forces spéciales, soutenues par l'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, tentent de reprendre Mossoul, la 2e ville du pays. Selon un responsable militaire, les djihadistes ayant perdu du terrain ont de plus en plus recours à des snipers et à des kamikazes.
Pour leur part, les Nations Unies s'attendent à ce que 200 000 civils irakiens fuient dans les prochains jours la partie de Mossoul tenue encore par le groupe État islamique. Un appel avait été lancé jeudi dernier par les autorités irakiennes exhortant les populations de la vieille ville à aller de l'autre côté des lignes gouvernementales pour leur propre sécurité.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé mardi qu'il était absolument essentiel que l'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique soit mis en œuvre à un moment où les États-Unis doivent clarifier leur position. Dans son premier grand discours consacré au changement climatique, le patron de l'ONU a jugé que les objectifs fixés par l'accord obtenu en 2015 devaient être remplis avec une ambition accrue.
Le ton est encore monté d'un cran entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Donald Trump, qui a lancé une virulente charge contre l'Allemagne. La crise entre les deux pays alliés apparaît comme l'une des plus sérieuses de l'histoire récente, Madame Merkel appelant à un sursaut européen sur la défense et la diplomatie. Depuis le sommet du G7 en Sicile, où le président américain a fait cavalier seul, en particulier sur la question du climat, Madame Merkel a changé de registre.
Elle ne mâche plus ses mots sur la politique du nouveau locataire de la Maison-Blanche, même si elle évite de prononcer son nom. Comme souvent, Donald Trump a choisi Twitter pour lancer mardi la riposte. Nous avons un énorme déficit commercial avec l'Allemagne. En plus, elle paye bien moins qu'elle ne le devrait pour l'OTAN et le secteur militaire. Très mauvais pour les États-Unis. Ça va changer, a-t-il lancé. Recours aux majuscules à l'appui.
Le président Trump, par ailleurs, estime que les officiels russes doivent se rire des États-Unis avec l'escalade des enquêtes américaines sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016, allégation qu'il qualifie d'excuse boiteuse de l'opposition démocrate pour expliquer la défaite de Hillary Clinton, sa rivale, en novembre dernier. Le ministère de la Justice de M. Trump a nommé un procureur spécial pour déterminer si des membres de sa campagne électorale sont coupables de collusion avec la Russie, et plusieurs commissions parlementaires ont ouvert leurs propres enquêtes.
Le Pentagone a annoncé avoir testé avec succès pour la première fois l'interception d'un missile balistique intercontinental. Le missile, sans charge nucléaire et lancé d'une petite île du Pacifique, a été détruit en plein vol au-dessus de l'océan par un autre missile tiré à partir de la base aérienne Vandenberg en Californie. Ce système vise à défendre les États-Unis contre une éventuelle attaque au missile par des États voyous comme la Corée du Nord.
Ici aux États-Unis, comparution hier devant un juge local de l'Américain accusé d'avoir poignardé à mort deux hommes qui s'interposaient à son agression islamophobe vendredi à Portland. Ces derniers étaient intervenus lorsque le suspect insulté deux jeunes filles dont l'une portait un voile islamique à bord d'un tramway. Le suspect, Jeremy Christian, 35 ans, a assumé pleinement son acte qu'il a qualifié de patriotique.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Plus de 31 milliards de francs CFA ont été détournés au Burkina Faso en 2015. C'est ce que révèle l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption dans un rapport remis au président Rochmar Christian Kabore. L'autorité enquêtait sur une quarantaine d'entités et de structures, dont la présidence du Faso et le contrôle des comptes de dépôt. Le contrôleur général d'État, Luc Marius Ibriga, espère qu'avec les pôles judiciaires spécialisés dans la délinquance économico-financière, les rapports de l'institution seront traités avec plus de célérité. Une première en Afrique du Nord, la Banque centrale de Mauritanie va émettre bientôt des bons du trésor conformes à la loi islamique. D'après son gouverneur Abdelaziz Ould Dahi, il s'agit de créer un environnement attractif pour la finance islamique. Objectif du bon islamique du trésor, lever des fonds pour le financement de l'État et diversifier l'offre des banques, qu'elles soient islamiques ou conventionnelles, par rapport à leur excédent de liquidité. Maurice vient de recevoir une ligne de crédit de plus de 500 millions de dollars de l'Inde à un taux d'intérêt fixe d'1,8% sur une période de 20 ans. L'argent servira à financer une série de projets d'infrastructures. Des observateurs font toutefois ressortir que les contribuables mauriciens finiront par rembourser environ 145 millions de dollars de plus.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coupe du monde des moins de 20 ans en Corée du Sud, la Zambie en piste.
À suivre ce mercredi, un choc périlleux en huitième de finale contre les jeunes Allemands. Les Zambiens avaient terminé premier du groupe C lors de la phase de poule avec deux victoires. Et demain, l'autre représentant africain, le Sénégal, affrontera pour une place en quart de finale le Mexique. Hier, le pays organisateur, la Corée du Sud, a été sorti du tournoi devant son public par le Portugal qui s'est imposé 3-1.
Finale de la Ligue des Champions, la pression monte entre le Real et la Juventus.
Oui, et cette déclaration, à mon avis, nous sommes meilleurs qu'eux. Cristiano Ronaldo a exhorté ses partenaires du Real Madrid à ne pas montrer trop d'humilité samedi contre la Juventus Turin en finale de la Ligue des Champions et a démontré qui est le meilleur. Ronaldo a souligné que le Real abordait cette finale en pleine forme après avoir décroché mi-mai le titre de champion d'Espagne. Il a fait valoir que le club meringué pouvait entrer dans l'histoire en devenant la première équipe à conserver son titre européen dans l'ère moderne de la Ligue des Champions depuis 1992. On écoute Zinedine Zidane, l'entraîneur madrilène, qui s'exprimait hier en conférence de presse.
Que les choses vont se faire naturellement comme je l'ai fait quand j'étais joueur. Donc je parle pas de ça, moi. Je dis juste que moi, je profite chaque instant parce que je sais qu'un jour, ça va s'arrêter. Et donc, comme moi, je suis à fond dans ce que je fais, je me dis qu'on a quelque chose à faire d'extraordinaire. Voilà.
Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid.
Tennis, tournoi de Roland-Garros.
À suivre ce mercredi, la Tunisienne Hans Jaber confrontée à la Slovaque Dominika Sibulkova, tête de série numéro 6. Et hier, le numéro 1 mondial Andy Murray a été accroché pendant 2 sets. Le Britannique s'est ensuite libéré face à Andrei Kuznetsov. Il a aisément validé son billet pour le deuxième tour de Roland-Garros. Le score 6-4, 4-6, 6-2, 6-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, 23 militaires viennent d'être révoqués par le président Pierre Nkurunziza. Ils avaient été envoyés dans des écoles d'études militaires à l'étranger, mais ne sont pas rentrés au pays. Depuis 2015, des militaires en fonction ou en mission à l'étranger ont refusé de retourner au pays, craignant pour leur propre sécurité. D'autres avaient rejoint les mouvements rebelles, mais le porte-parole de la présidence indique que ces militaires n'ont rejoint aucun mouvement rebelle. Le reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
Depuis le coup d'État raté du 13 mai 2015, à la tête duquel se trouvait le général Godefroy Niyombare, certains officiers supérieurs de l'armée burundaise qui étaient en mission à l'étranger ont refusé de regagner le bercail. Comme l'ancien porte-parole de l'armée, le colonel Adolphe Manirakiza, ils craignaient pour leur vie. Depuis le 26 mai dernier, un décret présidentiel a révoqué 23 officiers supérieurs. Le porte-parole du président burundais, Jean-Claude Ndenzako, donne les raisons de cette révocation.
Les 23 officiers sont composés de 19 officiers supérieurs et de 4 officiers subalternes. Et ils étaient partis à l'étranger pour poursuivre des études de troisième cycle, spécialement en Belgique, en France et au Canada. Tous étaient d'abord inscrits en classe de maîtrise pour une période de 2 ans, avant de poursuivre un cycle doctoral de 3 ans, soit un total de 5 ans. La désertion à l'étranger est sanctionnée par une révocation.
Le vice-président du parti Frodebu, Front pour la démocratie au Burundi, Léonce Ngendakumana, estime que cette situation doit être étudiée minutieusement, sinon le pays est en train de créer des ennemis au sein de ses forces vives.
C'est un cas extrêmement grave dans la mesure où nous avons dénoncé le fait que les corps de défense et de sécurité, à savoir l'armée, la police, le service national de renseignement, étaient en train d'être instrumentalisés, étaient en train d'être manipulés, étaient en train d'être détruits systématiquement sur fond politique et ethnique. Au moment où même ceux qui ont appris à manier l'arme décident de quitter l'armée, décident de quitter la police ou décident de rester là où ils sont, soit en mission ou aux études, c'est que la situation est extrêmement grave et qu'ils sont aujourd'hui éparpillés, soit à l'intérieur du pays, soit de la population, soit à l'extérieur du pays dans des réfugiés, soit en train de s'organiser quelque part en mouvement, en des mouvements politiques armés. Ça, c'est un danger assez évident que le pays se trouve en insécurité, que je demande au nom du parti Sawanya Frodebo que cette question soit programmée d'urgence pour examiner toutes les voies et moyens qui permettraient de stabiliser les corps de défense et de sécurité.
Avec les accords de paix et de réconciliation d'Arusha signés en Tanzanie en avril 2000, les différents mouvements rebelles, essentiellement Hutus, dont le CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir, avaient fusionné avec l'ancienne armée majoritairement Tutsi pour former les fausses armées burundaises. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En République centrafricaine, la Cour pénale spéciale chargée de juger les crimes de guerre commis entre 2003 et 2015 sera bientôt à pied d'œuvre après l'installation officielle de ses membres. Mais pour la société civile et les organisations des droits de l'homme, la mission de cette institution judiciaire internationale dirigée par le procureur spécial Toussaint Muntazini de la RDC s'étendra aux crimes commis après 2015 jusqu'à nos jours. Écoutons au micro de Félix Yepassis Zembrou, le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, Joseph Bindoumi.
L'équipe des experts qui avait été commis par le Conseil de sécurité pour faire le mapping des crimes commis et qui relèvent de la Cour pénale spéciale ont rendu public leur rapport. Aujourd'hui, ce rapport est remis au ministre de la Justice qui, après les prestations de serment et l'installation des membres de la Cour pénale spéciale, se saisiront de ce dossier et d'autres dossiers que les organisations de la société civile et les partis civils présenteront au procureur spécial.
On parle des crimes commis entre la période de 2003 à 2015. Qu'en sera-t-il pour la période postérieure à cette date?
Le texte porte à création de la Cour pénale spéciale, dit qu'elle est compétente pour enquêter sur les crimes commis depuis le 1er janvier 2003 à nos jours. Malheureusement, dans la commission de l'équipe des experts, il leur a été donné un mandat de rechercher les crimes qui ont été commis entre 2003 et décembre 2015. Mais en tout état de cause, il y a des dispositions pertinentes pour la création de la Cour pénale spéciale qui indiquent que toutes les personnes victimes peuvent saisir immédiatement le procureur spécial par une plainte avec constitution de partie civile sur des faits dont la gravité relève de la compétence de la Cour pénale spéciale. Donc il est probable que, malgré que les experts ont travaillé sur la période allant de janvier 2003 à décembre 2015, les victimes qui ne sont pas dans cette catégorie peuvent toujours saisir la Cour pénale spéciale. Les organisations de la société civile que nous sommes, nous avons de notre côté documenté des crimes, tracé la cartographie de ces crimes-là sur le territoire national. Nous continuons de recevoir les parties civiles et nous continuons de documenter des crimes que nous pensons vont être par la Cour pénale spéciale.
D'aucuns disent que la mission de la Cour pénale spéciale est incompatible avec l'esprit de la réconciliation nationale préconisé par les autorités de Bangui. Quel est votre avis?
Si le pouvoir politique envisage des pistes de négociation avec les personnes que la justice considère comme des bourreaux, mais les textes portant création de la Cour pénale spéciale disent que ces personnes-là ne peuvent pas être pardonnées ni par la loi d'amnistie, ni par la prescription. Et vous trouvez les mêmes dispositions au traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Il faut donc, à un moment, faire la distinction entre la démarche politique et la démarche judiciaire sur laquelle nous, organisations de la société civile et défenseurs des droits de l'homme, nous pensons qu'elle est la meilleure que la position politique.
C'était Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En Côte d'Ivoire, plusieurs jours après les mouvements d'humeur des soldats mutins et ex-combattants démobilisés, les habitants de Boaké tentent de reprendre une vie normale. Les établissements financiers, les commerces et les transports ont repris du service. Après ces événements traumatisants pour les populations, quel regard ces dernières, les populations portent-elles aujourd'hui sur cette ville épicentre des récentes revendications ? Boaké, l'ex-fief de la rébellion ivoirienne de 2002 à 2011, était toujours hanté par les démons de la violence. Sur ces questions, retrouvons notre correspondant à Boaké, Siriki Barrow.
Les derniers événements tragiques perpétrés à Boaké par les soldats mutins et les ex-combattants démobilisés revendiquant des primes à l'État ont replongé la ville dans un climat de méfiance et de peur. Cette ville est en train de redevenir un véritable cauchemar pour les populations. Bosso Blandine est enseignante. Elle a été victime d'une balle perdue lors de la mutinerie du 12 mai, chose qui l'a énormément affectée.
Ce moment était très douloureux pour nous et la balle que j'ai reçue vraiment m'a bouleversée et découragée pour la vie à Boaké parce que nous sommes venus ici pour travailler. À la longue, tout fonctionnaire qui sera amené à être invité à travailler ne va pas accepter à cause de la peur.
Dans les commerces, les activités tardent à retrouver leur vitesse de croisière. Boué Gisèle est responsable commercial dans une entreprise informatique. Elle note une baisse significative du chiffre d'affaires de son entreprise.
Pendant des jours, on n'a pas vendu. Vraiment, les chiffres d'affaires ont chuté, tout ça. On ne souhaite plus revoir ces événements.
Chez les transporteurs, le son de cloche est différent.
Ouattara, chef de gare, après la mutinerie, la reprise au niveau de nos activités ici, ça se passe très bien. Les populations sont sorties. Le chiffre d'affaires avait baissé, il faut le reconnaître, pendant la mutinerie, puisque les camions étaient bloqués au corridor. Mais tout juste après, les clients sont venus, on a travaillé sans problème.
Les mouvements d'humeur des soldats et des ex-combattants démobilisés ont sans aucun doute entaché la dynamique de paix et de développement que la ville avait amorcée depuis quelques années. instaurer un dialogue franc entre le gouvernement, les hommes en armes et les ex-combattants démobilisés afin d'éviter tout retour à la violence. Une solution que proposent certains habitants.
Qu'on essaie d'oublier tout ce qui s'est passé, qu'on aille de l'avant.
Et nous souhaiterons que les hommes en armes aient une conscience afin de penser à la population et de pouvoir dialoguer lorsqu'ils ont une revendication.
Je pense qu'on pouvait mieux se comporter, ça ne sert à rien qu'en cas de mécontentement, on s'en prenne au bien public.
Pour l'heure, Boaké essaie de vivre en pansant ses plaies. Boaké vit toujours dans la peur de sombrer encore une fois dans le chaos. Siriki Baro, Boaké pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Burkina Faso, de compagnie privée Air Burkina est devenue une société d'État, alors que la tendance est plutôt à la privatisation. Le groupe Aga Khan, qui en était propriétaire, a décidé de céder ses actions à l'État burkinabé pour un franc symbolique. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo fait le point.
Avec la rétrocession des actions du groupe Aga Khan à l'État burkinabé, peut-on dire que maintenant Air Burkina porte son vrai nom, Souleymane Soulama, ministre burkinabé des Transports.
Il a appartenu à l'État pendant plus de 30 ans et ensuite on a privatisé et le groupe Aga Khan l'avait racheté effectivement. Le groupe a décidé de céder à un franc symbolique. Cela veut dire que nous allons reprendre la compagnie sans dette. Donc ça fait que nous prenons en tout cas une compagnie sans problème. Maintenant, c'est à nous de pouvoir insuffler ce dynamisme-là pour assurer la continuité, poursuivre l'œuvre qui a débuté depuis 50 ans.
Comment a été accueillie cette reprise du côté des travailleurs de la compagnie? On écoute Nathalie Zongo. Elle est du service e-commerce.
Dans notre grande joie, l'État a décidé de reprendre la compagnie et on en voit que la compagnie va vraiment aller de l'avant et que tout sera mis en œuvre pour que ce soit la plus grande compagnie de l'Afrique de l'Ouest. Notre défi sera vraiment de booster notre secteur parce que actuellement le e-commerce a un taux de pénétration vraiment très bas dans notre marché.
Alain Ouattara, l'informaticien du service, y voit un sentiment du patriotisme.
La crainte, c'était peut-être que la compagnie ferme. C'est vrai que même dans le privé, déjà du fait que je sais que c'est mon travail, c'est grâce à ça que je vis. Je me bats pour pouvoir maintenir ma fonction. Chacun le fait à son niveau, donc la compagnie vit. Aujourd'hui, le fait de savoir que c'est l'État en plus qui est passé propriétaire de la compagnie, ça boostait en fait ce sentiment-là au sein des travailleurs. Et ça fait que je suis sûr qu'on pourra encore donner de meilleurs résultats dans les années à venir.
Pour Maggie Leslie, la chargée de communication marketing, c'est un grand ouf de soulagement.
Quand le groupe a quitté par exemple Air Mali ou Air Uganda, aujourd'hui ces compagnies sont toujours restées fermées. Mais là, nous ici avec Air Burkina, on a eu une véritable chance. Sinon, qu'est-ce que nous travailleurs allons devenir? Et donc pour nous, nous sommes contents, nous sommes heureux de pouvoir travailler dans cette transition-là avec l'État du Burkina Faso. Et puis, on sait que le gouvernement est en train de tout faire pour rechercher un autre repreneur.
À propos du repreneur, le président du Faso, de retour de son voyage en Arabie Saoudite, a levé un coin de voile. Écoutons Roch Marc Christian Kabore.
Nous avons eu des échanges à Qatar Airways en ce qui concerne Air Burkina pour voir dans quelle mesure on peut avoir une coopération avec Qatar Airways d'ici la fin de l'année.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, un état des lieux des relations entre les États-Unis et l'Europe après la récente tournée du président américain. Berlin parle de partenariat amoindri tant au plan commercial que militaire. Donald Trump est d'avis que les Américains ne tirent pas totalement profit de ce partenariat. Les rapports américano-européens sont-ils à la croisée des chemins après des décennies d'entente? Quels sont d'après vous les avantages ou désavantages pour l'Afrique d'un possible éloignement américain des Européens? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.